Ciné Latino Toulouse 2024. L'Andrian, l'histoire du premier cinéaste noir cubain, mis au banc par le régime. Je parlais dans un précédent épisode du rôle des archives cinématographiques dans la constitution de la mémoire des peuples. Hier soir, 19 mars 2024, dans le cadre de Ciné Latino, nous avons assisté à la projection du film, du dernier film de Ernesto Dalana Serrano, un réalisateur assez connu pour son film Chala, une enfance cubaine, et aussi Sergio y Sergei, qui ont eu tous les deux beaucoup de succès à Toulouse en particulier. Donc le dernier film de ce réalisateur se consacre au récit, sous la forme d'un documentaire très beau, de la recherche et la restauration de films produits au moment de la Révolution cubaine, dans les premières années de la Révolution cubaine, par un réalisateur qui répond au nom de Nicolas Guillén Landrian. Alors Nicolas Guillén, ça rappelle un poète de la Révolution cubaine, et effectivement c'était son neveu. Et donc le film nous plonge dans les souterrains des archives de l'ICAIC, le mythique institut de cinéma cubain, d'où sont sortis de très grands réalisateurs. Chemin faisant dans ces archives, on se rend compte que le patrimoine cinématographique est dans un sale état. C'est assez impressionnant de voir ces mètres linéaires d'archives laissés dans un état vraiment critique. Et la recherche des œuvres de Landrian s'avère compliquée. Et la découverte des bobines frustrante, car leur état nécessite un gros travail de restauration. Mais pour le réalisateur Ernesto Dalana, c'est un défi important, car ce réalisateur, Landrian, a été mis au banc par la Révolution cubaine. Le documentaire nous accompagne dans la découverte à la fois de l'œuvre de ce réalisateur, Landrian, et également des raisons pour lesquelles il a pu être banni par la Révolution, alors même qu'il s'était engagé à ses côtés dans un premier temps. Cette double approche est incarnée par deux personnages du documentaire. Gretel, la femme veuve de Landrian, qui apporte énormément d'éléments biographiques et aussi son point de vue sur les raisons pour lesquelles son mari a pu être écarté par le régime. Et le directeur de photographie de Landrian, qui apporte pour sa part des explications très pertinente sur la façon dont Landrian concevait son travail cinématographique. À l'issue de la projection du documentaire Landrian de Ernesto Dalana Serrano, nous avons pu entendre le réalisateur expliquer l'origine de son projet et la façon dont ce projet s'est développé fortuitement pour donner ce résultat que personnellement j'ai trouvé très beau et très émouvant. C'est cette présentation du documentaire Landrian par le réalisateur lui-même, Ernesto Dalana Serrano, que je vous propose d'écouter, traduite par l'une des personnes de l'équipe de Ciné Latino.
Quelques mots quand même sur la jeunesse du projet et le Covid, etc. et comment tout ça s'est organisé.
En réalité, c'est un projet qui est venu de casualité. A mí, yo me había acercado en el año 2019 al archivo de ICAI buscando material de archivo para la otra película que estaba preparando. Descubro en ese momento Yo sabía ya que estaba muy mal el estado del archivo, pero realmente verlo, olerlo, caminarlo, una sensación muy fuerte. Ahí está el patrimonio fílmico de la nación cubana, la memoria, gran parte de la memoria en imágenes de mi país, y se estaba perdiendo en ese estado que ustedes pueden ver en la película. Y me interesé entonces inmediatamente por una película que tiene un gran valor para mí, que es Osir del Toa.
Donc c'est un projet qui est arrivé à moi par hasard. En 2019, je me suis dirigée vers les archives filmiques cubaines parce que je cherchais du matériel pour un autre film. Et à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose que je savais déjà, mais une chose, c'était de connaître le très mauvais état des archives. Et une autre, c'était de le voir, de sentir l'odeur des archives et de marcher. C'était quelque chose de très fort parce qu'on se rend compte du patrimoine qui meurt, de cette mémoire du pays en images et en sons. Et mon intérêt immédiat s'est porté vers un film qui, pour moi, a une immense valeur, Au ciel del Toa.
O Ciel del Toa era una película que en el cine de barrio de mi infancia, en las matinées, finales de los años 60, ponían constantemente una película de retén en el cine, o sea, la tenían en el cine cuando fallaba con un material de una tanda, un noticiero, se ponían O Ciel. Los niños del barrio odiábamos la película, en general la odiábamos porque la ponían muchas veces. Yo amaba la película por una razón personal. Yo había vivido hasta los 5 años de edad en la zona en la que se desarrolla la historia de O Ciel del Toa. Y los rostros de esos personajes, ese río, ese paisaje, eso que ven en ese documental, eran los frescos de mi infancia, ¿no? Y por lo tanto, siempre me he unido a esa película un valor sentimental especial. Entonces, cuando me enteré por lo de O Ciel, mi primera reacción, se lo confieso, fue restaurar O Ciel del Toa. Pero me pareció un crimen. No hacer lo mismo, yo tenía muy poco tiempo realmente en ese momento, no hacer lo mismo con el resto de la obra de Landrián. Me dirigí a la presidencia de Vilcayo años anteriores, ya yo le había propuesto una opción para restaurar esa obra, pero en un financiamiento que venía de Estados Unidos no estuvieron de acuerdo con esa iniciativa. Esta vez entonces propuse restaurar esa obra y ocuparme yo personalmente de eso, y entonces fue decisiva la participación de mi amigo Luis Tejera, sin cuyo concurso, sin cuyo laboratorio y sin cuyo apoyo a la producción, la restauración de estos 10 documentales, que para mí es lo más valioso de toda esta aventura, habría resultado imposible.
Donc je commence par Au ciel del Toa. C'était un film qui passait toujours dans le cinéma de quartier où je vivais et qui était à la fin des années 60. Le film qu'on avait un petit peu en dépannage au cas où le film prévu ou le noticiel, donc les infos cinématographiques, soit en mauvais état, donc on passait toujours Au ciel del Toa. Ce qui fait que les enfants détestaient ce film, mais pas moi, et moi pour une raison assez particulière, c'est que j'avais vécu jusqu'à mes 5 ans dans la zone où se situe le film. Donc tous ces personnages, tous leurs visages, le fleuve et ces paysages, c'était mon décor à moi, donc il y avait une véritable valeur sentimentale. Donc dans un premier temps, j'avoue que je me suis ruée pour demander la restauration d'O Ciel del Toa parce que je pensais que c'était un crime qu'un tel film soit en train de disparaître. Et peu de temps avant, j'avais déjà proposé à la présidence de l'ICAIC, l'Institut du cinéma cubain, de restaurer ces films, mais c'était avec un fonds, une subvention des États-Unis, donc ça n'avait pas été accepté. Et cette fois-ci, j'ai fait une nouvelle proposition en disant que je allais m'en charger personnellement. Et la participation de Luis Tejera, mon ami, a été absolument décisive, à la fois parce qu'il a fourni de l'argent, un laboratoire, des connaissances et un soutien qui a permis de mener à bien cette restauration. Et toute l'aventure de ce film n'a de sens que parce que derrière il y a la restauration.
En réalité, je n'ai jamais pensé à faire un documentaire. Le documentaire a toujours dit que c'est un résultat de la pandémie. Llegó la pandemia, nos obligó a parar el trabajo. Yo tenía un trabajo de campo ya bastante desarrollado, porque quería que la restauración se hiciera con el criterio del fotógrafo, que es eso que ven aquí en el documental. O sea, realmente la mirada de Livio Delgado, el fotógrafo de buena parte de la obra de Landrián, y un gran conocedor de cómo se filmaba, la técnica, el material fílmico que hay en ese momento, fue el asesor de imagen para ese proyecto y tenía un montón de entrevistas hechas, la de Gretel y otras muchas más. Y entonces, en ese momento en que todo se paraliza, surge entonces la idea, que es en realidad una idea del editor Pedro Suárez, bueno, ¿por qué no hacemos entonces una película con todo esto que tenemos? Aprovechamos este tiempo en hacer este documental, y agradezco mucho eso, pero realmente hacer esta película fue mi compañía creativa durante, la pandemia, y es una película que quise dirigir directamente al público cubano, porque Landrian es un gran desconocido para el público cubano. Y eso que dice Grete, que a Landrian le gustaba ser didáctico, elegí hacer una película didáctica, o sea, una película para nuestro público, una película para la gente de a pie, porque siento y entiendo que el cine de Landrian es un cine que sabe mirarnos de una manera que al mismo tiempo que profunda, espiritual, intelectual, es una manera que todo el mundo entiende. O sea, que es algo que muchas veces el cine más elaborado no logra, ¿no? Landrian tiene esa complejidad, o sea, es un cineasta capaz de ir a la esencia, a la profundidad de las cosas y al mismo tiempo resultar atractivo, resultar interesante para el gran público, que como cineasta siempre ha sido una preocupación para mí. Creo que en un país como Cuba, donde hay tan poco acceso al cine, donde la gente en general tiene tanta necesidad de verse reflejado en nuestro cine, también de alguna manera tiene que establecer ese diálogo con su público.
Donc je n'avais jamais pensé dans un premier temps faire un documentaire, un long métrage, mais je dis toujours que ce documentaire est le résultat de la pandémie, à un moment où on a dû complètement arrêter de travailler. Et à ce moment-là, moi je disposais heureusement de beaucoup de travail de terrain, parce que mon souci lors de la restauration, ça avait été de connaître surtout les critères du chef opérateur, qui a été Livio Delgado, donc le chef opérateur de presque toute l'œuvre de Landrian. Donc j'avais du matériel, j'avais cet assesseur qui contrôlait mon travail, et j'avais beaucoup d'interviews, celle de Gretel, celle de Livio, et celle de beaucoup de gens en plus de celle-ci. Et dans ce moment de paralysie, j'avoue que c'est l'idée du monteur, de Pedro Suarez, qui m'a dit « Allez, profitons de cette paralysie pour travailler, pour faire quelque chose ». Et je lui en suis infiniment reconnaissant, parce que ce film a été ma compagne durant la pandémie, mon compagnon durant la pandémie. Et c'est un film qui s'adresse au public cubain, parce qu'il est vraiment important de savoir que pour le public cubain, Landrian est un inconnu. Et Gretel dit dans le film qu'il aime être didactique. Et c'est vrai que ce sont des films qui, malgré les apparences, la profondeur, le côté peut-être intellectuel parfois, s'adressent aux Cubains et à tous les Cubains. Donc il a à la fois ce regard qui est profond, mais que l'on comprend. Il a à la fois un regard, donc il reprend le mot intellectuel, mais c'est surtout des films intéressants, attrayants, et ça c'est aussi mon souci à moi en tant que réalisateur, de m'adresser à tout le monde. Et il faut savoir que vraiment les Cubains ont peu accès au cinéma, et qu'il est nécessaire pour eux de se sentir reflétés dans ce cinéma, et que ce dialogue vive.
Et l'autre élément fondamental, je crois que c'est que me hizo dar el paso decisivo, que durant esos meses de la pandemia, en Cuba se produce un grupo de sucesos, de estallidos sociales. La expresión de nuestro pueblo y con el descontento realmente con la situación que estamos viviendo en nuestro país durante muchas décadas ya, y se acentuó también la censura dentro del cine cubano, o sea, en realidad se estaba criminalizando explícitamente el disenso, el derecho de nuestro pueblo a expresar libremente sus anhelos, y por supuesto que en el campo de la cultura también se recrudece entonces ese accionar del Estado sobre los creadores. Landrian es de alguna manera el símbolo de todo eso, es la síntesis de todas esas cosas que estaban ocurriendo, tiene una gran actualidad. Los que estuvieron antes en el panel que hubo antes con un grupo de jóvenes cineastas cubanos sumamente talentosos eran de alguna manera un vaso comunicante entre esta película y la realidad que expusieron ellos, nuevamente forzados al exilio, forzados a iniciar su carrera lejos de su patria e inventándose una nueva realidad para seguir haciendo en definitiva cine cubano, ¿no? Entonces creo que es una serpiente que se muerde la cola, es algo que aunque ocurrió hace 60 años, hace más de medio siglo, lamentablemente mantiene una absoluta vigencia. Ese es otro de los grandes motores que me lleva
Un autre élément, c'est que durant les mois de la pandémie, il y a eu beaucoup d'événements et de soulèvements sociaux à Cuba qui ont été l'expression de mécontentement accumulé depuis des décennies. Et c'est aussi un moment où la censure sur le cinéma s'est faite de plus en plus forte. Et il y a eu très clairement une criminalisation de la dissension. Donc on exprime son avis, on devient un criminel quand il est contraire. Et donc on avait une sorte d'extinction un peu des désirs. Et il y a une claire action de l'État sur les créateurs, et Nicolas Guillén-Landrian est le symbole et la synthèse de tout ça, mais c'est une synthèse qui s'exprime encore dans l'actualité. À 20h30, juste là, il y avait une table qui réunissait les jeunes créateurs, qui sont d'ailleurs dans la salle maintenant, de jeunes créateurs cubains qui sont un groupe avec énormément de talent. Et je vois vraiment ça comme des vases communicants parce que leur réalité est similaire. Ils ont été eux aussi contraints à l'exil. Ils doivent mener leur carrière loin de leur pays, inventer une nouvelle réalité pour malgré tout faire du cinéma cubain. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Et après plus d'un demi-siècle, on continue d'avoir cette situation. Donc c'est aussi pour moi une sorte de moteur pour mon œuvre.
Ce documentaire très intéressant sera de nouveau diffusé le 21 mars à 19h10 à la Cinémathèque et le 23 mars à 19h05 à la Cinémathèque également. Et dans le cadre du festival, il y a aussi la possibilité de voir les courts-métrages de Landrian lui-même sous le titre programme de courts-métrages Landrian, cinéaste visionnaire, cinéaste vérité, où vous pourrez accéder au documentaire de Landrian restauré. Donc ce programme de court-métrage s'annonce passionnant, je ne les ai pas encore vus, mais les images qu'on en voit dans le documentaire de Ernesto Dalana Serrano mettent en appétit et en curiosité par rapport à ce cinéaste qui allait filmer sans commentaire la réalité brute dans les rues, dans les quartiers, aussi dans la province. Il a fait partie des rares cinéastes à s'extraire de la Havane pour aller filmer d'autres régions, d'autres endroits de l'île. Et donc ce sont vraiment des témoignages bruts en noir et blanc, avec beaucoup de scènes de rue, beaucoup de scènes populaires et énormément de scènes qui documentent la vie de la population noire à Cuba, puisque Landrian, Nicolas Guillén Landrian, lui-même était un réalisateur noir. Donc ce programme de court-métrage, vous pourrez le visionner dans le cadre du festival le 23 mars à 15h25 à la Cinémathèque. Dans cet épisode, vous avez pu entendre la bande-son de la bande-annonce du film Landrian de Ernesto Dalana Serrano, ainsi que la musique de la bande-annonce des Focus, composé par Ivo Martin, Landrian et le programme de court-métrage Landrian, cinéaste visionnaire, cinéaste vérité, faisant partie du Focus Salut les Cubains, Cubaines, résister à l'effacement. La prise de son des échanges avec le réalisateur et de Flore. Un épisode conçu et réalisé par Flore pour Les Petits Papiers, Canal Sud 92.2 ou canalsud.net.